Nous sommes le mercredi 19 décembre et vous écoutez le 38e épisode, phase B de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous présente des jeux de société sur table et sur écran.
Proxyjeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueuses, salut les joueurs, salut Olivier.
Salut Jérémy.
En forme ?
En forme de quoi ?
Bah je sais pas, de jeu.
En forme de meeple.
En forme de meeple, voilà, c'est parfait.
Ouais, tout va bien.
Je te vois bien avec les bras comme ça à l'horizontale.
Tout va bien. On attend la fin du monde encore une fois. Enfin,
non,
nous espérons que quand vous entendrez ces mots, la fin du monde sera derrière nous. Et aussi, vous aurez été gâtés, puisque Noël sera derrière nous aussi.
Avec plein de jeux.
Et puis, on vous rappelle le live à la triche qui arrive bientôt le 14 janvier. Et donc, il va falloir venir nombreux et nombreuses. Moi, je m'en fous, je triche, rue Leno à Lyon. N'hésitez pas, il y aura de la galette.
Et, ouais, je préfère le cidre.
La galette, il y aura du cidre aussi.
Et voilà. Et vu que vous avez sans doute des petites étrennes à placer après les fêtes, et ben voilà quelques avis sur des jeux pour vous faire craquer.
3 jeux, 4 jeux, Ali, Uchronia, qu'on va comparer à la gloire de Rome, on peut que comparer à la gloire de Rome, et puis moi je vous parlerai d'Andorre, et puis Ginkgo Police. Que des bons jeux alors ?
Ouais, pas mal.
Bon, très bien.
On va dire ça comme ça.
Eh bien allons-y alors, on va commencer vite cet épisode, et on va commencer par vous parler de Ali.
Ali, c'est donc un jeu de Antoine Boza et Corentin Lebras.
Qui ça ?
Ouais, chez Libellude, pareil, qui ça ?
Quoi ça ?
Voilà. Donc, des auteurs, un éditeur maintenant connu. Signature Libellude, effectivement, c'est des jeux très beaux. C'est dans une petite boîte carrée. C'est juste, en fait, un jeu avec des cartes. C'est un jeu de mémoire. Alors, le concept, il est tout simple. Hein. Vous avez plein d'objets différents sur les cartes.
Est-ce que tu as dit qui avait illustré ce très joli jeu?
Non. Et il faut que je sorte mon tissage, c'est ça?
Oui. Ah, il vaut mieux. C'est très joli. C'est Alibaba et les 40 voleurs.
Oui, c'est Alibaba et les 40 voleurs. C'est Ali qui va dans la caverne et qui va devoir ramener des trésors. Alors, l'illustrateur, c'est Stéphane Poinceau.
Eh bien, il est dans la droite lignée de...
Ah oui, c'est...
Je peux dire... Sans... Alors, je vais être un petit peu méchant. Il est un peu en dessous de ce qu'on se voit généralement dans les Libellude, mais c'est très bien. Et c'est très cohérent avec alors, l'histoire. Le lion est magnifique, ça va très très bien.
Ce qu'il faut, c'est qu'en fait les visuels soient quand même assez clairs parce que c'est un jeu de mémoire. Ce qui se passe, c'est qu'à tour de rôle, on va interpréter le rôle de Ali.
Oui.
Ali, il a un rôle assez simple, il prend les trésors qui sont dans la caverne. Les autres joueurs, bon, ça s'appelle les voleurs, ça colle pas super à la thématique, mais ils vont devoir nommer en fait toutes les cartes que Ali a dans les mains. Donc au début, Ali, il a qu'une seule carte, il montre par
un
exemple
peu comme
j'ai un dromadaire.
Un peu comme un Simon.
Oui, c'est comme un Simon, exactement. Sauf que tu peux le dire dans l'ordre que tu veux. Donc là, moi, je te montre, j'ai un dromadaire.
Ouais.
Donc toi, tu dis, dans la caverne, il y a
dans
un
la caverne,
dromadaire.
Il y a un dromadaire.
Ensuite, je prends une deuxième carte. Je trouve un diamant.
Tu me montres le dromadaire aussi ?
Non, je te remonte pas le dromadaire. Je te montre que le diamant. Donc c'est un autre joueur.
Et donc,
il y a un autre joueur sur la table. Et donc, lui, il doit dire
dans la caverne, il y a un dromadaire et un diamant.
Voilà. Donc, on continue. Je révèle une troisième carte, un miroir.
Donc dans la caverne, il y a un dromadaire, un diamant, un miroir.
Voilà. Et au bout d'un moment, on en arrive avec 10 cartes en main.
Et donc, dans la caverne, il y a un dromadaire.
Voilà, un lion. Et au bout d'un moment, tu n'arrives plus à... Et alors, il faut réussir à se rappeler de tout. Bien sûr, il peut arriver, par exemple, les babouches. Là, j'en ai deux, donc il faut dire, dans la caverne, il y a deux babouches. Donc, c'est comme ça, il y a un petit crescendo au fur et à mesure sur tes joueurs. Ce côté mémoire, vraiment différent. Habituellement, on est habitué aux jeux de mémoire, les mémories, quoi, un pic-plume, etc. Je cherche les paires. Là, à côté, le fait qu'il faille se remémorer et nommer seulement les objets, c'est vraiment différent. Surtout quand la liste allonge, et puis un joueur, il va hésiter, il va prendre du temps. La règle dit pas qu'on doit les énumérer comme ça directement sans se tromper. Et puis nous, quand on joue avec les enfants, on est un peu permissif là-dessus, sur le fait qu'ils peuvent un peu réfléchir pour trouver.
Eh oui, 68 est passé par là.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, l'air de rien, quand le jour d'avant, toi, il a déjà mis 2 minutes pour réénumérer la liste des 8 objets, toi, tu commences à dire « Aïe, attends, j'en ai plus, j'ai des plus de tous, tout ça. » Tu réfléchis un peu plus, ça perturbe les petites latences du jeu. Et les enfants peuvent t'étonner parce qu'ils sont des fois capables de te sortir la liste des 10 objets alors que toi...
Mais les enfants sont toujours étonnants sur au niveau des jeux de mémoire, ils sont toujours plus forts que nous.
Voilà. Alors après, comment ça marche ? Une fois que... Admettons, quand un voleur s'est trompé, cas le plus fréquent, Ali, il prend toutes les cartes qu'il a en main, il les met sur la table. Lui, il en prend déjà 3 pour lui. Oui. Et ensuite, il va se partager avec les voleurs qui ne se sont pas trompés, etc. Ils vont se partager les cartes qui restent. Chacun à son tour, ils en prennent une.
Ça me semble stratégique. Il faut que tu m'expliques.
Ah bah après, on verra. Le calcul des points, en fait, à la fin, c'est simple. C'est chaque carte différente vaut un point.
Ah, bah c'est... Voilà.
Voilà. Il y a des cartes qui sont présentes en deux exemplaires, trois exemplaires, voire un seul exemplaire, comme le lion.
Le lion, mais il est magnifique, ce lion. Je l'aime beaucoup.
Et il est beau, hein.
Ouais.
Ouais, c'est un beau lion. Mais alors, pour pas que... Parce que pour Ali, c'est un peu facile. Sinon, lui, il a qu'à piocher des cartes et des cartes et des cartes jusqu'à ce qu'un voleur se trompe. Ce qui serait trop facile, puisque Ali est vraiment récompensé. Quand un voleur se trompe, Ali il pioche 3 cartes parmi les cartes qu'il a en main. C'est énorme. En gros, il est quasiment sûr de faire 3 points. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un système de stop ou encore. Il y a des cartes qui sont de couleur. Enfin, qui représentent des objets étincelants, ou des objets lourds, ou des objets qui font du bruit. Donc, c'est les animaux en général. Et chaque fois que Ali pioche une carte, par exemple, qui est bruyante, donc elles sont vertes, il pioche, il met un jeton vert devant lui. Si à un moment il a trois cartes de la même couleur, donc trois cartes vertes ou trois cartes jaunes, ou... il a perdu instantanément et les voleurs se partagent toute la mise.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu dis c'est bon les gars, on arrête et...
Ouais, et on se partage tout entre nous. Du coup, tous les joueurs se partagent entre eux les cartes.
Ah,
et Ali est le premier à choisir une carte.
Et du coup, la thématique des voleurs est pas...
C'est ça, la thématique là-dessus n'est pas respectée. Bon, c'est pas très très grave. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une part forcément de hasard un petit peu dans cette pioche des cartes. Hein. Le gagnant n'est pas forcément celui qui a la meilleure mémoire. Et en sachant que les cartes que tu as gagnées les fois d'avant, tu les mets de côté, tu les revois plus. Enfin, nous, on joue en tout cas à la version, tu les revois plus. Donc après, quand tu te repartages d'autres butins, c'est à toi de te rappeler ce que tu as gagné.
Mm-hmm.
Voilà, bon, alors... ce que j'aime, c'est pas effectivement ce système nécessairement de comment on sait qui a gagné, etc. C'est vraiment le côté mémoire par énumération, ce qui est beaucoup plus difficile. Et là, je t'ai présenté la version, on va dire, tout public, familiale. Maintenant, on joue entre adultes, tu veux corser un petit peu. Il va falloir affubler chaque objet d'un adjectif en plus.
Ah, le beau lion.
Un lion, voilà, un beau lion.
Le grand miroir.
Voilà. Et il va falloir, quand les autres vont énumérer, il va falloir qu'ils énumèrent de la même manière. Donc, à mon avis, ça corse un petit peu, non seulement il faut se rappeler les objets, mais en plus les adjectifs qui leur ont été.
Oui, ça rajoute un attribut en plus à se souvenir. Quoi.
Donc, c'est pour ça que je pense que les objets n'ont pas non plus à être trop. Enfin, la mémoire visuelle joue, donc il ne faut pas que les graphismes soient trop développés.
Ouais, je veux dire quelque chose que peut-être. Bon, voilà.
Vas-y.
Fonctionnel, quoi.
Fonctionnel, mais c'est quand même beau pour du fonctionnel. Hein.
Oui. Non, mais en plus. En plus, le problème, le fait est que Libellule nous a vraiment habitués à... Enfin, j'ai Seasons dans la tête. Seasons, c'est tellement joli, c'est tellement beau que...
Voilà.
Après, forcément, c'est un petit peu... Elles sont un petit peu fades.
Il n'y a que cette carte-là, on n'a pas su la nommer. Tu dirais que c'est quoi?
Ça, c'est un coussin.
Ouais, c'est un coussin. Au début, on avait pensé que c'était un tapis volant. Et en fait, non, il y a des tapis les volants. Mais oui, parce qu'il y a un tapis volant.
Mille et une folies.
C'est ça. C'est exactement. On est vraiment dans l'univers d'Aladin.
Donc Ali de Corentin Lebras et Antoine Boza, 3 à 5 joueurs, à partir de 8 ans.
Mais c'est jouable dès 6 ans en fait. Hein. Enfin,
une quinzaine de minutes.
Ouais.
Et puis ça doit être 20 euros, 15 euros.
Bon, une quinzaine d'euros, ouais.
Et tu conseilles?
Bah pour le côté, oui, comme je dis, pour le côté, pas pour toute la mécanique complète, mais parce que j'aime beaucoup ce système de mémoire des noms en fait.
Et pour le coup, Corentin Lebras, c'est également l'auteur du Petit Poucet. Qui est également un jeu de mémoire, mais un jeu de mémoire dynamique qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc il prend un peu le contre-pied de ce qu'on connaît déjà, et ça c'est pas mal. On vous a pas mal parlé de Yellow la semaine dernière, il y a 15 jours, puisqu'on a parlé des prix ludiques et de King of Tokyo. Yellow sort énormément de jeux, il y a une grosse production, et notamment en ce moment, depuis Essen, il y a deux jeux au moins qui nous ont fait de l'œil. C'est Uchronia, de Karchudi, qui est l'auteur de la God of Rome, et puis Andor, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et Jérémy, tu voulais nous faire un petit parallèle entre Uchronia, nous présenter Uchronia par rapport à la Gloire de Rome, je pense. Bah, oui. Je pense qu'on ne peut pas parler d'Uchronia sans parler de la Gloire de Rome, même si l'éditeur dit que ça n'a rien à voir avec la Gloire de Rome. Parce qu'il y a des dinosaures dans Uchronia, donc
ouais.
Forcément ça n'a rien à voir.
Évidemment. Bon, mais tu m'as un peu vendu.
Ça commence bien.
Oui, tu commences déjà négativement. donc oui, l'auteur, effectivement, c'est Karchudi, c'est l'auteur aussi qui avait fait la Gloire de Rome. Uchronia, c'est un jeu qui est entièrement fait par Yellow, c'est-à-dire que ce n'est pas Commander, hein, une coédition, etc. C'est vraiment Yellow qui a porté le projet.
Ouais.
Il sort avec un an de retard parce qu'il était déjà annoncé à ESN l'année dernière. Je pense qu'il y a eu quelques démêlés justement parce que, avec l'upgrade de RAM, des démêlés juridiques ou j'en sais rien, qui fait que le jeu a été retardé d'un an. Il est enfin arrivé, donc j'ai pu le tester. Pour me rendre compte à quel point c'était ou pas une copie de la gloire de Rome, etc. Il faut savoir que la gloire de Rome, j'y ai pas mal joué il y a une petite année, à peu près, hein, je pense, quand il est sorti. On avait d'ailleurs fait une présentation croisée avec Innovation. Ouais, on en
ah oui,
déjà
parlé. Oui, tout à fait.
Parce qu'Innovation, c'est un autre jeu de cartes uniques. Voilà, alors la gloire de Rome, c'est un jeu qui est quand même exigeant, qui va demander plusieurs parties avant d'être un minimum, on va dire, apprivoisé. Avant d'être même maîtrisé.
Ouais, excuse-moi, c'est le même, dans la même catégorie, je mettrais Rise of the Galaxy où au départ tu comprends rien. C'est-à-dire qu'il y a la compréhension de la logique. Ouais, t'as la logique du jeu à intégrer, la connaissance des cartes à intégrer, et après tu commences à comprendre et après tu commences à prendre du plaisir. Donc c'est pour ça que c'est pas une ou deux parties que tu peux la première partie de la foire.
Non. Alors Uchronia, c'est une cour d'apprentissage beaucoup plus rapide que la gloire de Rome.
Oui.
On verra en fait donc l'éditeur Yellow, il aime pas qu'on dise que c'est la gloire de Rome, c'est quand même très proche. Ils ont simplifié pas mal de règles. En fait, c'est là qui a été le pari, je pense, de l'édition, c'est de simplifier des règles pour le rendre plus accessible.
Oui.
On verra, ça a quelques, par contre, ça a quelques inconvénients, évidemment. Ils n'ont pas réussi à tout simplifier sans dénaturer trop le jeu. Et donc, du coup, pareil, pour pas que ça corresponde trop à la gloire de Rome, bon, ils ont inventé un petit.
Un pitch
merveilleux qui.
Ils ont mis des dinosaures.
Ils ont acheté des dinosaures, n'est-ce pas? Évidemment, les dinosaures existent toujours et l'ont ramené une certaine. Des connaissances, enfin bref, blablabla. Bla, bla. Au final, les dinosaures, vous allez les retrouver quasiment de rien,
oui.
Si ce n'est dans les illustrations des cartes.
C'est ça.
Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que c'est encore sur la Rome antique, quoi, les illustrations? Il aurait fallu faire une illustration, je sais pas moi, une époque moderne avec des dinosaures.
Ou du steampunk, ou du. Ça aurait été classe, du steampunk.
Ouais, mais voilà, bon.
Bref.
Mais c'est pas. Bon, après, c'est pas très gênant pour les mécanismes. Alors, le principe. Il va falloir développer votre ville, votre civilisation, en construisant des bâtiments. Alors, pour construire les bâtiments, avant ça, il va vous falloir gagner des ressources. Il va vous falloir, c'est surtout en fait gagner des ressources qui vont permettre de construire. Comment
classique.
Vous allez pouvoir faire ça. Ouais. Vous allez pouvoir faire ça à travers des cartes. Alors, les bâtiments, c'est des cartes à part. Il y en a 5 en fait toujours qui sont disponibles pour les joueurs. Il y en a 5 au choix. C'est une pioche ouverte. Donc on a des cartes qui vont permettre à la fois de représenter les ressources et à la fois de donner les ordres à son tour de jeu. Donc on a 5 cartes en main au début, on choisit une carte, on la pose, on résout l'ordre qui est indiqué.
Et les ordres sont
ça peut être
visuellement décrits sur la carte.
Ouais, avec des icônes, etc. C'est pas très simple au début, c'est pas particulièrement...
Ouais, comme tout le système d'icônes.
Enfin, ouais, ouais, les icônes, on les retrouve, on a des petits plateaux individuels, on retrouve les icônes sur le plateau. Donc après, on arrive à maîtriser. La particularité, en fait, c'est que quand on joue un ordre... Si on a déjà cet ordre, enfin l'équivalent de cet ordre-là qu'on a dans nos activités, bon, c'est une partie du plateau, je ne vais pas entrer dans les détails, on va pouvoir exécuter cet ordre plusieurs fois. Par exemple, si je joue l'ordre production et que j'en ai deux autres dans mes activités, je vais pouvoir résoudre trois fois l'ordre production. Ça devient très intéressant.
Qui correspondait à au les rôle
clients. C'est les clients.
Ouais, c'est ça. La gloire
c'est
de Rome.
Les clients de la gloire de Rome. Donc il y a cet aspect déjà des ordres et puis ensuite donc la gestion des ressources à travers ces différents ordres. Les joueurs à leur tour de jeu, ils ont deux choix possibles, c'est ou bien ils font un ordre, ils jouent un ordre et puis ils le résolvent, ou bien ils vont faire ce qu'on appelle un comploté. Donc dans ces cas-là, ils vont éventuellement, dans certaines conditions, copier un ordre qu'un autre joueur a joué, petite part d'interaction à cet endroit-là, et puis remonter leur main à 5 cartes. Il faut savoir que des fois la pioche elle est malheureuse, on n'a pas les bons ordres en main. Dans ces cas-là, on va pouvoir jouer, si on a deux cartes identiques, on peut les jouer, et dans ces cas-là, on choisit l'ordre que l'on veut. Il y en a 5 possibles quand même. Donc parmi ces ordres, il y a gagner des ressources, il y a monter des ressources dans les activités, donc justement pour avoir des bonus plus tard, il y a participer à la construction des bâtiments, et puis il va y avoir la partie, c'est les draconiens, donc ce petit côté clin d'œil aux dinosaures, c'est l'équivalent de Rome exige dans la guerre de Rome.
Rome exige, tu vas piquer des
cartes. Où on va pouvoir exiger, voilà, les adversaires vont devoir nous donner des cartes. Ensuite, il y a au niveau des bâtiments, quand on construit un bâtiment, il va demander de 1 à 3 ressources. Alors, les bâtiments sont dans certaines couleurs.
Jaune, bleu, rouge.
Orange, enfin, c'est la même couleur que les cartes de ressources.
Oui, qui demandent plus ou moins de ressources et qui sont plus ou moins puissantes.
De 1 à 3 ressources. Ils ont surtout des effets. Ils vont avoir des bonus qui vont permettre d'améliorer notre développement. Et c'est ces bonus qui vont faire notamment qu'on va choisir tel ou tel bâtiment. La particularité, par contre, c'est
excuse-moi, c'est tout l'intérêt du jeu, c'est de pouvoir construire les bons bâtiments et puis se développer de cette façon-là.
Oui, mais c'est là où la gymnastique n'est pas simple pour le non-joueur. Enfin, pour celui qui... Enfin, en tout cas, les premières parties du Cronia, on a un petit peu du mal à comprendre comment on va faire.
Mais tu veux dire comme dans les premières parties de la Wheel of Rome ou...
Ouais, comme
peu,
le, ouais
c'est
comme...
quand même un peu plus simple, non?
Oui, c'est plus simple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les 5 bâtiments qui sont sur la table qu'on peut choisir. Dans la Gloire de Rome, on choisit un bâtiment qu'on a en main. Par contre, quand on veut construire, par exemple, il y a un bâtiment jaune, si je veux le construire, il faut qu'il y ait... Alors, en fait, les cartes ordre qu'on a pu utiliser, elles vont au milieu de la table, ce qu'on appelle le forum.
Oui.
Encore un terme de la Gloire de Rome, qui est resté. Et pour construire un bâtiment jaune, il faut que, dans ces cas-là, je défausse du forum une carte jaune. S'il n'y en a pas, je ne peux pas construire de bâtiment jaune.
Oui.
Et là, on arrive sur le premier couac du jeu.
Bah non, oui, enfin c'est...
Des fois dans le forum, il n'y a pas les couleurs qui vont par rapport au bâtiment qu'il y a dans la pioche des bâtiments.
Ah.
Ce qui n'arrivait pas dans la Gloire de Rome, parce que dans la Gloire de Rome, il y avait des cartes fondation à côté. Donc c'est une simplification qu'ils ont voulu apporter au jeu, mais qui va un peu dénaturer. L'autre problème, c'est que la pioche, bah, du coup, elle est limitée aux 5 bâtiments qu'il y a là. Donc on ne va pas bâtir une vraie stratégie autour des différentes cartes qu'on pourrait avoir en main. Il va falloir faire avec ce qui vient petit à petit. Et des fois, sur les 5 bâtiments, s'il y en a 3 qui ne nous intéressent pas, eh ben, ils vont rester longtemps sur la table.
Tu veux dire que ce que je viens de dire il y a 30 secondes, de dire tu choisis ton développement en fonction des bâtiments, ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es un peu bloqué et c'est plus opportuniste que la Gloire de Rome.
Oui, c'est ça. Oui, la Gloire de Rome, tu construis un peu plus une stratégie. Parce que tu peux bloquer des cartes dans ta main pendant longtemps en attendant de pouvoir les construire correctement, etc. Bon, après, le pari, à mon avis, du Cronia, hein, c'est de faire un jeu plus simple d'accès.
Ouais.
Donc voilà. La fin de partie, elle arrive comment? En fonction du nombre de joueurs, il y a un certain score à atteindre. D'accord? Comment on marque des points? Un point par... Enfin, les bâtiments, ils valent de 1 à 3 points, en fonction de leur difficulté à construire, évidemment. Et puis aussi, les activités. Donc, j'ai dit, on peut avoir des fois des cartes ressources qu'on va monter dans les activités. Et quand on en a, par exemple, c'est moi qui en ai le plus en jaune, j'en ai 2 en jaune. J'ai, là, dans ces cas-là, j'ai le monopole dans cette activité-là. Donc, je gagne autant de points que j'ai de cartes jaunes. Par exemple, j'ai 2 cartes jaunes, je gagne 2 points en plus. Cette notion-là, c'est pareil, elle n'existait pas sous cette forme-là, la Gloire de Rome. On l'a à la fin de la partie seulement. La fin de la partie dans la Gloire de Rome, elle arrive quand on a construit quand on a lancé un certain nombre de bâtiments. Quand on a construit un certain nombre de bâtiments.
Et quand on a les monopoles dans certaines couleurs, en fait, dans la Gloire de Rome.
Après, c'est à la fin, on calcule ça. Mais oui. Au départ, c'est qu'il y a des fondations quand tu lances des bâtiments de couleurs. Et quand on a épuisé toutes les fondations de départ, dans ce cas-là, c'est la fin de la partie.
D'accord, ok.
Et dans la Gloire de Rome, il y a aussi des bâtiments qui vont donner des conditions de victoire. Il y en a une où il y a une victoire sèche. Si le joueur a construit un bâtiment et qui remplit des conditions de victoire, il gagne instantanément. Ou à l'inverse, s'il construit, je sais plus ce que c'est comme bâtiment, un bâtiment bleu, dans ces cas-là, ça arrête instantanément la partie. Donc il y a cet aspect-là aussi qui n'a pas été repris dans Uchronia. Pareil, je pense, dans un souci de simplification.
Et les dinosaures, alors?
Dans les illustrations et puis dans l'ordre, les draconiens. Voilà, c'est tout.
On est taquin.
Ouais, non, les dinosaures, on s'en fiche. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de Uchronia? Alors, vas-y.
Est-ce que c'est suffisamment différent? Est-ce que ça s'adresse au même public? Est-ce que tu le conseilles à un certain public?
Oui, c'est ça, en fait. Ils seront suffisamment différents. Uchronia est quand même plus simple. Parce qu'ils ont simplifié un petit peu. Il y a d'autres choses qui ont été simplifiées. La façon dont c'est joué dans Rome, un joueur joue un ordre de... Il choisit un rôle d'un personnage, donc il y a déjà moins de rôles aussi dans Uchronia. Mais dans Gloire de Rome, un joueur joue un rôle et ensuite les autres joueurs vont pouvoir dupliquer ce rôle. Ça n'y est pas. Ça a été vraiment simplifié dans le rôle de comploté de Uchronia.
Alors, je vais quand même mettre un petit peu mon grain de sel. J'ai fait une partie de la Gloire de Rome, une seule, dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Il y avait des enfants autour de nous, ça durait des heures et c'était pas favorable. J'ai rien compris.
Et c'est la première partie.
Ouais, mais j'ai rien compris. Alors c'est vrai, encore une fois, c'était pas des conditions très favorables et ça amenait pas l'envie de découvrir, mais c'est ce qui me posait problème, c'était de savoir le flux des cartes, en fait.
C'est ce que j'allais dire.
C'est-à-dire savoir quand est-ce que tu pouvais remonter des cartes, l'importance des clients, le rythme, en fait, de la partie. Et ça, je ne l'ai pas chopé, donc c'était...
Tu l'as un petit peu dans... T'as aussi un peu le même problème dans Uchronia, effectivement. Ah. Pour expliquer aux auditeurs, en fait, les cartes, on les a à la fois, on en a en main, mais il y en a aussi également qui vont se trouver effectivement sur la table, et il y en a d'autres qui vont se trouver sur le plateau, et il faut comprendre un petit peu comment est-ce que je peux... comment je peux utiliser les cartes de ma main pour... pour donner des ordres, c'est facile, mais ensuite, si je veux pouvoir les amener jusqu'à arriver à être des ressources qui me permettront plus tard de construire des bâtiments, etc. Effectivement, tout ce flux-là, il n'est pas simple. À la Gloire de Rome, il faut 2-3 parties pour suffisamment le passer, ce que j'appelle l'apprivoisie, on va dire.
Oui.
Et dans Uchronia, il y aura un petit peu le même problème. Alors, ça va être plus simple, parce qu'ils ont quand même bien simplifié cette notion La façon de construire un bâtiment, on n'en a pas le choix, c'est forcément des cartes qui viennent du stock et qui peuvent aller à la construction, etc. Donc ça a été simplifié. Malgré tout, à la première partie, c'est sûr, les joueurs ils vont être perdus. Hein. Ça, c'est évident. À la deuxième partie, ils vont commencer à comprendre. Et l'importance, comme tu disais, donc, des clients, donc, des activités dans Uchronia, qui permet, par exemple, je joue l'action construire une fois et j'en ai deux autres dans mes activités, ce qui me permet de faire trois ordres
c'est
construire.
C'est super important.
Ça, c'est super important. Mmh. Ça permet des fois de construire un bâtiment en un tour. Ça, c'est la partie la plus importante de ces deux jeux. Et ça, effectivement, par contre, là, les joueurs, ils vont pas le maîtriser encore tout de suite. Hein. Ça va vraiment... c'est la partie la plus importante. Alors, par contre, du coup, l'ordre de construction, par exemple, c'est pour moi un des ordres vitaux parce que c'est le seul moyen quasiment de faire des points de victoire. De toute façon... Ici, c'est de construire des bâtiments. Dans la gloire de Rome, il y avait d'autres solutions. On pouvait mettre des cartes dans son coffre-fort, enfin, sa chambre forte.
Oui.
Et c'est les points de victoire qui ne se révélaient qu'en fin de partie. Donc, il y a des effets un petit peu surprise. Mm-hmm. Que là, on n'a pas du tout. Puisque, de toute façon, les points, ils sont tous visibles sur la table. Et il faut construire des bâtiments. Et du coup, bah, donc, c'est important de monter des ordres de construction dans les activités en début de partie. Bon, une fois que les joueurs ont maîtrisé ça, ça ira un petit peu mieux.
Ok.
Donc pour moi, Uchronia, c'est... Enfin, La Gloire de Rome, c'est un jeu exigeant.
Attends, voilà. On parle d'Uchronia ou de La Gloire de Rome ?
Justement, c'est pour essayer de les situer. La Gloire de Rome, c'est un jeu exigeant.
Voilà. Uchronia aussi.
Mais, ben... ah, tu me fous de bordel, hein. Tu me fous de bordel. La Gloire de Rome, c'est exigeant parce qu'en en fait, il y a beaucoup plus de stratégies possibles. Parce que les cartes, elles sont à la fois, elles font tout. Il y a les bâtiments, il y a les ordres, il y a tout est sur les cartes.
C'est plus riche.
C'est sa partie gestion. Ouais, c'est beaucoup plus riche. On peut monter des vraies stratégies vraiment différentes en s'appuyant sur des rôles différents, etc. Donc c'est pour des joueurs, c'est La Gloire de Rome qu'il faut choisir. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de s'investir dans un jeu comme ça, parce que La Gloire de Rome, il va falloir jouer 10 fois, il va falloir jouer beaucoup pour l'apprécier à fond.
Ça veut dire que les parties ne sont pas plus longues dans Uchronia, mais que la rejouabilité est plus simple, c'est ça ?
C'est plus simple, ouais. Par contre, la rejouabilité pour des gros joueurs, elle va être limitée, parce qu'à mon avis, dans Uchronia, on va vite avoir tout le temps les mêmes styles de développement. Même s'il va falloir s'adapter aussi aux bâtiments qui sont disponibles. Et par contre, défaut des deux jeux, un joueur expérimenté va forcément manger ses adversaires. Aucune chance aux débutants face aux joueurs expérimentés, ça c'est évident.
Ouais, c'est un problème que tu retrouves dans Season, c'est un problème que tu retrouves dans Rise of the Galaxy, c'est un problème que tu retrouves
surtout dans les jeux de cartes, à partir du moment où tu as de la combinaison de cartes, où il y a du mécanisme un peu particulier. Donc, Uchronia, je m'attendais à pire en fait. Non, mais je m'attendais ou bien à un plus gros plagiat de La Gloire de Rome ou à l'inverse, un truc raté. Et non, finalement, c'est correct. C'est juste.
C'est qu'un plagiat et c'est pas trop raté.
C'est pas un plagiat, c'est le même auteur. Non, mais en fait, c'est. Ils ont voulu le simplifier. Le
constat, ils ont réussi. Ils ont réussi à simplifier.
Suffisamment, du coup, pour que ça intéresse un autre public. Mais c'est ça qui est intéressant pour eux. Mmh. Par contre, ce que je trouve assez horrible,
et là, c'est le drame.
Là, c'est un drame atroce, vraiment, par rapport à La Gloire de Rome, pour pas nommer. C'est que La Gloire de Rome, il y a eu zéro problème de fabrication du jeu. Alors que là, Uchronia, c'est une horreur. Les cartes carrées des bâtiments, elles sont carrées aux angles. Et l'air de rien.
Donc elles n'ont pas des angles arrondis.
Non, les angles ne sont pas arrondis. Donc les cartes
Et en plus,
sont mal coupées.
Elles ne me semblent pas épaisses par rapport à des cartes.
Ah bah oui, c'est pas les...
Lord of Rome standard, ouais. elles sont très...
Non, mais tu les manipules peu. Et les petites cartes, là,
Elles
sont petites. Donc, quand il y en a 170 à brasser en début de partie, bon courage, les enfants. C'est un petit peu difficile, parce que pour vous donner une idée, c'est taille des petites cartes de... je vais dire les aventures du rail première édition, ça va pas vous aider.
C'est des petites cartes. C'est des demi-cartes...
Ça. Ouais, c'est la moitié.
Vous prenez une carte, vous la coupez en deux dans le sens...
Voilà, dans le sens paysage.
Vous le coupez en deux. dans le sens de la largeur.
Dans la longueur.
Vous la coupez en deux dans le sens de la longueur, et puis vous avez deux petites cartes. Bah, c'est ça en fait.
Voilà,
c'est
donc,
une demi-grosse carte.
Et quand il faut mélanger donc, toute la pile, là, c'est un petit peu difficile. Et elles sont mal coupées. Alors j'ai pas compris pourquoi les cartes production, elles sont très noires.
Ouais, elles sont mal coupées dans le sens où, en fait, elles sont. Le massico, il s'est décalé en fait.
Ah, c'est pas toutes, hein, y en a qui sont centrées, mais pas toutes. Donc voilà.
Oui, effectivement, j'avais pas vu ces trucs là.
Elles ont des traits noirs. Toutes les cartes de production jaune, elles ont un trait noir. Enfin, pour moi, la réalisation, elle est franchement mauvaise.
Donc en fait, les jaunes, elles sont décalées sur le côté.
J'espère qu'ils auront rapidement un deuxième tirage. Et les plateaux individuels, c'est pareil, c'est du carton tellement léger, c'est une catastrophe.
Ça gondole.
Il est tout gondolé. Donc.
C'est humide chez toi. Hein.
Ouais, même pas, parce que c'était conservé au boulot. Pardon.
C'est humide au boulot. C'est pas comme si t'étais dans une tour ultra moderne.
Ben non, ouais. Justement pas. Donc la réalisation, elle est pas au top. Moi, maintenant, par rapport au public auquel ça s'adresse, peut-être que c'est moins gênant. C'est des gens qui sont moins joueurs, qui sont moins exigeants dans le matériel.
Ouais, c'est ça passe.
Mais moi personnellement, ça me gênerait quoi.
C'est dommage. C'est les graphismes sont très sympas. La boîte aussi, elle a été coupée. On dirait que le chinois, il a pris son truc et puis il l'a mis un peu à la va-vite.
Bon, on peut espérer que c'est juste le premier tirage et qu'au deuxième.
Mais non. Attends, je suis pas d'accord. Enfin, dès le premier tirage, si tu fais un truc bâclé, bah, t'as pas de deuxième tirage, quoi. Et par contre, bah, t'as une couve avec une illustration, tu sais, brillante. Enfin, c'est sympa, le graphisme est super sympa. Et moi, ça gâche un petit peu, mais nous, on a peut-être un petit peu les yeux d'experts qui disent attention, parce que là,
oui, c'est ça.
Mais voilà, je pense que pour le commun des mortels, ça passera très bien. Pour résumer, cher Jérémy.
C'est compliqué, hein, vu qu'on a tout mélangé avec la gloire
de Rome. Non, c'était important parce que la gloire de Rome, c'est quand même... on pense forcément à la gloire de Rome quand on parle d'Uchronia.
Donc si vous êtes un joueur expérimenté, la gloire de Rome, sinon Uchronia, ça vous ira très bien. Ça vous ira même mieux, ouais, carrément. Ouais, parce que c'est la gloire de Rome, ça va vous demander... Il va vous falloir 10 parties à la gloire de Rome pour mettre... 10, j'exagère, mais...
Seulement 8.
Ouais. Seulement 8, vraiment pour que vous appréciez vraiment, alors que Uchronia, en 3 parties, vous serez rodé. Uchronia, c'est donc un jeu de cartes ludique pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour 45 à 60 minutes. Ça, c'est des informations éditeurs. Hein. Je dirais plutôt 60 minutes à 5 joueurs facilement. Et La Gloire de Rome, c'est un jeu de cartes ludique pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans et 60 minutes plus. Oui, c'est vraiment un gros plus. Si vous êtes 4 ou 5 joueurs, vous serez plutôt à 1h30 de jeu.
Très bien, après Uchronia, on va rester quand même dans les jeux Yellow. On va parler d'un autre jeu qu'on a loupé un petit peu à Essen. Il n'était plus disponible, il avait été en rupture un petit moment. Je crois qu'on n'en trouve plus trop et on est de nouveau dans un creux, mais je pense que ça va
revenir. En fait, ils les tirent par l'eau, donc ouais. Ils font 1000 boîtes. Une fois qu'elles sont écoulées, il faut le temps que les 1000 suivantes arrivent.
Et je veux vous parler du jeu Andor de Michael Menzel. Paru donc cet automne chez Yellow. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 90 minutes, et c'est du coopératif avec un thème médiéval fantastique. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte d'Andor, la boîte est très lourde, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a un plateau double face, il y a des plateaux individuels, il y a un tas de petits jetons qui vont nous servir. Il y a des marqueurs, il y a des jetons puits, des jetons brouillard, il y a des objets, il y a plein de choses. La boîte est, tu sens déjà la richesse du jeu quand tu ouvres la boîte. Et deuxième chose, c'est quand tu ouvres la boîte, tu as une règle qui est minimaliste en fait. Et tu as surtout un gros paquet de cartes, enfin un paquet de grosses cartes, de grandes cartes. Donc là, c'est un peu le pendant du Chronia. Du Chronia, tu as des petites cartes et Andor. T'as des cartes presque 3 fois la taille d'une carte normale. Et en fait, il y a 6 scénarios. C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu coop où on va vivre quelque chose qui n'est pas vraiment un jeu de plateau, pas vraiment un jeu de rôle, enfin, entre les deux, et qui est conduit par ces grandes cartes, en fait. C'est-à-dire que sur le plateau, tu vas avoir une échelle. Suivant le scénario, elle va avoir des jalons. Quand tu franchis ces jalons, bah tu retournes une carte. C'est-à-dire que les choses vont, il y a des événements qui vont arriver au fur et à mesure de l'aventure. Et en fin de compte, quand tu vas avancer dans l'aventure, tu vas tuer des monstres. Et c'est le nombre de monstres tués qui va te faire avancer un petit pion. Et au fur et à mesure, bah tu vas déclencher des
et les grandes cartes.
Des événements.
C'est les événements. La grande carte, c'est quoi alors?
C'est des scénarios.
C'est des scénarios.
C'est des scénarios. C'est-à-dire que
Il y a une campagne.
Il y a un premier scénario qui a un tutoriel, et puis après, tu as des aventures, en fait.
D'accord.
Et en fait, on n'explique pas en dehors. C'est-à-dire qu'on vit c'est vraiment comme dans un tutoriel de jeu vidéo. Tu vas retourner la première carte qui va dire, vous avez déplacé votre personnage, parce que les personnages, c'est comme dans un jeu de rôle, tu vas avoir des magiciens, des nains, des elfes, des archers, tout ça. Chacun avec leurs caractéristiques spéciales. Alors c'est rigolo parce que tu as une force qui va te permettre de combattre, et puis tu as aussi de la volonté. Et la volonté, en fonction de ta volonté, qui est une des ressources en fin de compte du jeu, tu vas pouvoir avoir plus de dés à lancer, et donc tu vas avoir plus de chances de faire un bon jet, et donc pouvoir combattre. C'est un système qui est assez bien trouvé, qui est assez logique en fin de compte. Et bah, ça permet d'avancer dans l'histoire, de se dire, d'avoir un but en fait, de dire je vais avoir plus de volonté, je vais avoir plus de force, je vais pouvoir allaiter des plus gros monstres. Et le premier scénario, c'est un scénario d'initiation où on va te faire défendre le château, et puis après te faire porter. Non. Après, je le dis pas, on va pas spoiler. Mais
on
bon,
pense quelque chose.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bah, tu vois, t'as deux parties en fait dans ce scénario-là. T'as une première partie où tu vas défendre le château, et puis après il y a un événement qui arrive, et puis on va un peu te faire changer de ton fusil d'épaule. Et même étant donné que c'est le premier scénario, le scénario d'apprentissage, t'as un premier petit bout où tu vas apprendre le déplacement des personnages, où tu vas apprendre le séquencement des actions, parce que en fait il y a un truc quand tu arrives sur une case où il y a une tuile, tu vas retourner la tuile. Voilà, donc c'est bien foutu parce qu'en fin de compte, tu apprends le jeu en jouant ton premier scénario.
D'accord. Et par contre, quand tu vas le rejouer, ça va être la même chose. Du coup, la première fois, une fois que tu as défendu le château, tu découvres que ça continue, qu'il y a encore autre chose après.
Oui, ça sera pareil.
Mais la deuxième fois, quand tu rejoueras, tu te sauras déjà.
Ça sera exactement pareil.
D'accord. Donc tu auras plus cette découverte, mais par contre.
Non, alors il y a deux choses. Alors, donc, 2 à 4 joueurs, tu choisis le personnage que tu veux jouer. Tu choisis la façon dont tu vas faire le scénario. Alors, a priori, le premier scénario, il n'est pas extrêmement difficile.
Oui, forcément, c'est pour l'apprentissage.
Ouais. Mais bon, il faut pas, dans le jeu coop, il ne faut pas que ce soit trop facile. Parce que sinon, t'as pas le challenge et t'as pas envie d'avancer dans le scénario. Tu t'acquiers quand même des automatismes. Par exemple, tu te dis, ça c'est pas mal. C'est-à-dire, la volonté, par exemple, ça se mutualise. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu te dis, il y a des points de volonté à répartir entre tous les joueurs. Et soit tu peux l'orienter vers un seul joueur en disant, toi tu vas augmenter ton niveau de volonté, et puis comme ça tu vas pouvoir avoir des dés supplémentaires, ou alors tu les répartis un petit peu sur chaque personnage. Quand tu bats un monstre, tu as soit de la force, soit de la volonté. Donc soit tu as plus de dés, soit...
tu cognes mieux.
Ouais, parce qu'en fait, tu vas lancer des dés, tu vas ajouter à ton meilleur score la force que tu as. Alors que les monstres, eux, t'ajoutent les doubles. Donc des fois, tu as des trucs un peu insensés et il vaut mieux être un peu fort.
D'accord.
Et alors c'est pareil, toujours, les héros ont chacun leur propre... caractéristiques spéciales. Pour moi, c'est une surprise. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à avoir un jeu comme ça, qui est hybride entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Je ne m'attendais pas à avoir un jeu de plateau qui puisse se découvrir uniquement avec les règles. Effectivement, il n'y a que 6 scénarios. C'est un petit peu comme dans Robinson Crusoe, en fin de compte.
C'est suffisant, non ? Puis de toute façon, il y aura des extensions.
Oui, tout à fait. C'est vachement bien fait. Alors, petite précision que j'ai pas... petite autre chose que j'ai pas dit, juste qui m'a fait bien rigoler. En fait, il y a une question de point d'action. C'est-à-dire que t'as en fait, quand tu te déplaces d'une case, tu vas avancer d'une heure sur l'échelle de temps de ton héros. Et en fait, la journée du héros dure 7 heures. Donc en fait, il est aux 35 heures.
C'est bon.
Voilà. Donc, pour résumer... plein de matos, un jeu qui est pas forcément un jeu de plateau, pas forcément un jeu de rôle, où on vit une aventure, où on...
Tu la vis vraiment, l'aventure ?
Ouais, parce que dans la première partie, tu dois défendre le château, t'as des monstres qui arrivent à tous les tours, tu te poses vraiment des questions pour savoir si tu vas y arriver ou pas.
D'accord.
Et ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas donné tout de suite, tu te dis pas, finir the nose, j'avance, je vais les buter. Et t'as des fois, tu te dis, on est mal, quoi. Quand tu vois la volonté de tes différents alliés qui descendent et qu'ils ont 3D, puis 2D, puis 1D pour se battre, tu te dis, on est super mal.
Mais ils y arrivent quand même.
Mais on y arrive quand même. Et c'est ça l'intérêt, c'est justement de frôler la catastrophe pour arriver à vaincre. C'est ça qui est... c'est les plus belles aventures, c'est ça, en fait.
Et ça marcherait pour un public, on va dire, familial, ou tu conseilles plutôt pour adultes ou ados ?
Non,
ou...
j'ai pas testé. Je suis certain que pour les ados, ça marche pas mal. Pour les enfants, les vieux enfants, donc 10 ans, ça doit marcher
vieux
très bien
enfants.
Aussi.
D'accord.
Oui, les pré-ados, quoi. Enfin, enfants, pré-ados.
Ouais.
Ça doit marcher aussi. Parce qu'en fait, les actions sont assez simples. C'est-à-dire que t'as toujours, tu dois gérer ton plateau individuel. Donc tu dois faire des choix en fonction de ce que tu, comment tu veux faire évoluer ton personnage, en force ou en volonté. Mais d'un autre côté, après, ça reste un co-op, donc tu peux avancer et encadrer l'enfant, même s'il est un petit peu jeune. Par contre, il y a toujours ce problème d'effet leader, et là, j'ai pas de solution. S'il y a quelqu'un qui arrive en disant, bah, toi tu fais ça, bah, c'est mort, quoi.
Tu coupes la tête.
Bah, tu joues pas avec lui.
Bah non, tu coupes la tête, après tu joues.
Tu joues pas avec lui, parce que là, contrairement à ce qu'on a dit précédemment, il y a des jeux qui se prêtent à ne pas avoir de leader parce que t'as des informations cachées, là, t'as tout visible, quoi.
Ouais,
t'as vraiment tout visible. Alors après, non, parce que t'as des... Il arrive des choses un petit peu chaotiques dans le brouillard, n'est-ce pas? Tu vas dans le brouillard, et puis, parce que c'est le brouillard, on n'y voit pas grand-chose.
Comme ce matin à Lyon.
Pardon?
Comme ce matin à Lyon.
Je sais pas. T'as quand même quelques informations qui sont cachées, mais tu vas recevoir de l'or, ou tu vas avoir, tu vas faire une rencontre. Enfin, il y a rien, ça va pas très très loin, au moins pour le premier.
D'accord.
Le premier scénario. Après, les scénarios sont assez. Je dirais, d'un côté, les scénarios sont divers. De l'autre côté, je pense que le plateau fait beaucoup, parce que t'as un plateau double face. Et le fait d'avoir une topologie de plateau qui change, ça va aider aussi à avoir une aventure qui va changer aussi.
Non, mais c'est bien. 6 scénarios, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Ouais. Hein, moi, je considère qu'un jeu, quand on fait entre 5 et 10 parties, c'est déjà un jeu... Bah, c'est un jeu qu'on a rentabilisé largement et qui est bon, qui signe qu'il est bon. Donc, 6 scénarios, c'est parfait.
Donc, Andor, je vous le rappelle, c'est un jeu coopératif. C'est du médiéval fantastique. Vous avez envie de jouer un guerrier, un nain, un mage ou un archer, ben allez-y. Si vous avez envie de jouer en famille, ça peut marcher aussi.
À partir de 10 ans, quand même.
À partir de 10 ans, oui, je pense que... Oui. Après, tu vas encadrer l'enfant qui sera un peu plus jeune, et justement, tu vas le guider. Tu vas le faire participer, c'est ça qui est bien aussi. Tu vois le truc,
oui,
avec les enfants, c'est que... Ouais, c'est ça.
Il
va vraiment vivre l'aventure. Mais tu peux le faire prendre des décisions, c'est pas un problème. Après, il faut accepter que tu te plantes parce que ton gamin, ben, il a fait un choix qu'il devait pas faire en disant
«
Tu devrais peut-être aller latter la gueule du monstre. » Non, je veux aller voir dans le brouillard si je trouve quelque chose d'intéressant. Non, tu devrais peut-être. Non, je veux... Ok.
Mais ça fait partie du jeu, c'est très bien. C'est la cité interdite, par exemple, ça marche aussi.
Alors, tout à fait.
Ils apprennent les erreurs.
C'est la cité, c'est pas l'île interdite ?
L'île interdite, pardon.
La cité interdite, c'est autre chose.
C'est Pékin.
Donc voilà, c'est un petit peu cher, c'est une quarantaine d'euros. Mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de matos dedans que ça les vaut parfaitement. Il y a des petites figurines en carton. Si vous avez envie d'aventure plus que de réflexion, de gestion, d'autres choses, je pense que c'est sympa. Et puis Andor, en plus, ça permet, si vous rentrez dans le hobby, c'est vraiment super sympa de commencer par ça. Il y a quand même une toute petite difficulté, c'est que t'es tellement encadré quand on t'apprend les règles, quand tu te poses des questions, et ben t'as pas les règles complètes et tu sais pas. Parfois, tu demandes comme pour quand tu as un ennemi qui est sur une case de brouillard, il faut faire un choix. Nous, on a pris le choix, on a fait le choix de dire quand t'arrives sur le brouillard. D'abord, tu arrives sur le brouillard, de toute façon ton action s'arrête. Tu vas voir ce qu'il y a dans le brouillard et tu géreras l'ennemi par la suite. Mais ça, c'est pas évident, c'est pas logique, c'est pas. Il pourrait très bien être écrit dans la règle que d'abord tu affrontes l'ennemi et après tu affrontes ce qu'il y a dans le brouillard. Et ça, c'est pas écrit dans la règle. Enfin, ou alors nous, on l'a pas trouvé. Donc, c'est un petit peu la critique que je ferais, c'est tellement encadré et tellement pas à pas. Que contrairement à une règle que tu lis et où tu vas aller dans les petits détails et où tu vas dire bah oui effectivement dans ces conditions-là alors il se passe ça, bah t'as pas ce recul. Mais globalement pour un public familial, pour un public qui a envie d'avoir un jeu de plateau d'aventure, bah c'est parfait.
Parfait.
Voilà. Donc Yello, merci pour ça. Merci d'amener un jeu qui n'est pas vraiment un jeu de rôle et qui est un peu plus qu'un jeu de plateau.
Oui, c'est la force de cet éditeur, c'est de proposer des jeux comme ça un peu...
Un peu...
Qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais. Donc Andor, c'est un jeu de Michael Menzel, pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour 90 minutes environ.
Oui, c'est ça.
Et 40 euros. Et pour conclure ces présentations de jeux, Ginkopolis.
Chez Pearl Game.
Un jeu sorti, ouais, chez Pearl Game, qui est sorti donc à Essen. Donc Pearl Game qui nous avait déjà fait 3 et tournait. Zinkopolis, là, c'est Xavier Georges tout seul.
C'est plus le même format de boîte.
C'est un format, bah, c'est la même.
Plus classique.
Même largeur, hauteur, enfin largeur, longueur, mais c'est plus haut, effectivement. Ouais. Parce que ça regorge un petit peu de matos, hein, si tu vois ma boîte. Des tuiles, en veux-tu, en voilà, il y a du stock.
Et puis, les illustrations, c'est Gaël Lanurien.
Oui, les illustrations, c'est, on a perdu le côté médiéval, machin, etc. pour un truc beaucoup plus coloré.
Futuriste.
Futuriste, parce qu'on construit des villes dans le futur, des villes bio.
C'est des villes bio, tu veux dire sans OGM ?
Ouais, ouais, enfin c'est la thématique. Hein. Après, on va voir que c'est purement mécanique tout ça. qu'on s'en fiche un petit peu.
Tu veux dire que le thème ne joue pas dans le jeu ?
Absolument pas.
Ne joue pas dans le jeu.
Non.
N'a aucune influence.
Non. Non, aucune. La seule chose qu'on va voir, c'est qu'on construit en hauteur.
Mais les illustrations sont sympatoches.
Non, l'illustration, c'est sympa.
Ça a à voir avec le Ginkgo Biloba ?
Peut-être, sans doute.
Ok.
Mais c'est pas mon genre de truc, donc c'est pas mon rayon. Le jeu a bien buzzé à Essen, donc il m'avait intrigué, donc j'ai voulu rapidement m'en procurer une boîte pour essayer. Et je dois avouer que je suis assez enchanté par le jeu.
Enchanté ?
Enchanté. Alors par contre, je n'ai joué qu'à deux joueurs, qui, on verra, est un format, je pense, qui fait que ça rend les parties plus intéressantes, mais qui a aussi ses inconvénients. Rapidement, le principe du jeu. Les joueurs vont construire une ville. Au départ, on commence avec une ville qui fait 3 cases par 3 cases avec des bâtiments. Les bâtiments, ils sont dans 3 couleurs différentes.
C'est exactement les mêmes tuiles pour tout le monde ?
Ouais, c'est. Non, en fait, les tuiles sont au centre.
Les tuiles de départ ?
C'est sur le centre. Ouais, c'est les tuiles de départ. C'est la ville du départ, en fait. Il y a 3 couleurs.
Attends. Chacun a 9 tuiles ?
Non, non, c'est le plateau central. Non, il n'y a pas. Les joueurs, ils ont un écran, ils vont juste cacher des choses derrière l'écran, mais c'est la même
d'accord,
ville.
D'accord.
La même ville. Donc les tuiles, elles peuvent être dans 3 couleurs : bleu, jaune, rouge. Elles sont numérotées de 1 à 20. Donc au début, il n'y a que les cartes de 1 à 3. Les tuiles de 1 à 3. Le reste des tuiles, c'est une pioche à côté. Le concept du jeu, ça va mélanger à la fois du draft et à la fois de la majorité.
Alors, rappelons ce que c'est le draft.
Le draft, c'est donc au départ, donc j'ai 5 cartes en main. J'en choisis une. Qui sera celle de la carte que je vais jouer ce tour-ci. Et les 4 autres cartes, je vais les donner à mon. Je les donne à mon voisin. Qui piochera une carte de plus et qui devra faire un choix là-dedans.
Et en l'occurrence, ce n'est pas des cartes, c'est des tuiles.
Non, non, c'est des cartes. Tu joues des cartes. Elles sont rangées dans ma boîte parce qu'il y a du matos à gogo. Voilà. Mais tu as des cartes.
Ouais, je peux faire une aparté sur le matos à gogo ?
Quoi ? Il est beau.
C'est facile quand tu mets des inserts en carton de faire du matos à gogo en fait. Parce qu'en fait, t'as la moitié de la boîte qui est prise par les inserts en carton. Et,
ouais, mais c'est quand même déjà bien rempli, hein. Regarde.
Oui, bah enlève tes inserts en carton puis t'auras le même format que tourné.
T'as de la pile en jeton. Ah oui, bref. Tout à fait. Mais plus de matos.
Bravo, hein.
Beaucoup plus de matos. Bon, bref, la partie étant finie. Donc la ville, elle fait pour l'instant que 3 cases par 3, mais en fait, on va pouvoir l'étendre sur les côtés. Sur tous les côtés, par des phases d'urbanisation. En fait, dans les cartes qu'on a en main, on va pouvoir ou bien urbaniser, c'est-à-dire agrandir la ville. Dans ces cas-là, il va falloir poser une tuile qu'on aura préalablement acquis derrière son écran pour agrandir la ville. Dans ces cas-là, on va gagner des bonus. Ou bien, on va essayer de construire par-dessus une tuile qui est déjà en jeu. En jouant la carte de mes valeurs. Par exemple, si je veux construire sur la tuile tour à bleu, il faut que je joue la carte 3 bleu. Il faut que je l'ai en main. Et là, en fait, on va voir, on a un petit peu le concept de Sherlock of Snow. Il y a un peu.
Waouh.
Ouais.
C'est du card driven.
C'est pas. Non, c'est. Ouais. Oui, c'est du card driven, forcément, tu choisis la carte. Mais c'est surtout du faux. C'est du pseudo DBG. Pseudo deck building. Pourquoi ?
Alors, attends. C'est pas du vrai card driven, mais
si,
c'est du
vrai
pseudo.
Card driven. Tu joues une carte et tu appliques les faits qui est marqué sur la carte.
Du pseudo.
Mais parce que regarde, je vais jouer, par exemple, je vais rajouter la tuile 14 bleue.
Oui.
En faisant une phase d'urbanisation, donc je vais la poser sur le plateau. Du coup, je vais la marquer avec un rond.
De ta couleur ?
Je la marque à ma couleur, première chose. Et deuxièmement, je vais la marquer avec un autre rond. Quand la pioche sera terminée, pioche de cartes sera terminée, on va aller chercher dans les piles de cartes à côté la carte 14 bleue. Et on va la mélanger dedans.
D'accord.
C'est là qu'il y a le côté un peu deck building. Mais sauf que c'est la pioche globale de tous les joueurs. Mais il y a ce côté évolution. Et à l'inverse, si par exemple je construis sur ma tuile 14 bleue, je mets une autre tuile dessus, je construis par-dessus. Ce qui va se passer, c'est que la carte 14 bleue, du coup, je vais la mettre de côté. Et en bas des cartes, en fait, elle donne un bonus. Donc si tu regardes, ça peut être des bonus qui vont rapporter des points de victoire en fin de partie, ou bien ça peut être des bonus, par exemple, chaque fois que tu fais la phase « je construis par-dessus », je gagne, en plus je vais piocher des tuiles dans la pioche, etc. Donc, dans ce jeu, il faut gérer plusieurs choses. Il faut posséder des tuiles derrière son écran, pour pouvoir les poser plus tard sur le plateau, première chose. Donc il va falloir régulièrement aller piocher des tuiles. Pour aller poser des tuiles, il va également falloir payer des ressources. Des ressources, c'est des petits...
Des cubes.
Des petits cubes en bois.
Oh, des cubes en bois.
Ouais.
C'est de la nourriture ?
Ouais, c'est rien, c'est des ressources de construction. Quand on va vous construire, quand on va vouloir urbaniser, c'est-à-dire construire au premier niveau, on va payer un cube. Quand on construit au deuxième niveau, il faut payer deux cubes et ainsi de suite. On peut construire sur les autres également. Dans ces cas-là, ils retirent leurs pions, ils récupèrent leurs ressources et ils gagnent des points de victoire. Et nous, on doit mettre nos jetons dessus. Donc il faut gérer aussi les ressources. Et il faut aussi gérer évidemment les points de victoire. On va marquer les points de victoire tout au long de la partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à la
Est-ce
fin...
que tu gagnes des points de victoire à la fin ?
À la fin de la partie, ouais, tu vas marquer plein de points de victoire. Tu vas en marquer notamment beaucoup sur le plateau à travers des majorités. En fait, on va regarder sur le plateau vu du dessus. Et tous les quartiers, un quartier, c'est au moins deux tuiles de même couleur qui se touchent. Donc par exemple, s'il y a deux cartes bleues, tuiles bleues, ça y est, ça fait déjà un quartier. Mais ça peut, les quartiers peuvent être beaucoup plus longs, ils peuvent faire 5 ou 6 cases. Dans ce cas-là, on compte combien il y a de jetons ressources pour tous les joueurs, et celui qui est majoritaire, il marque autant de points qu'il y a de jetons en tout. Donc par exemple, s'il y a, s'il y a 5 pions, j'en ai 3, t'en as 2, moi je marque 5 points, et toi tu marqueras que 2 points. Donc, il y a cet aspect majorité qui va être aussi à gérer sur le plateau. Mais en sachant que l'autre manière de marquer les points de victoire, c'est en ayant posé justement des cartes qui rapportent des points de victoire en fin de partie. Alors, par exemple, on va marquer des points de victoire pour des tuiles qu'on a de couleur jaune, ou bien des tuiles bleues ou sur lesquelles on est présent, tout simplement. Ça peut, il y a toutes sortes de types de bonus qu'on va avoir. La difficulté, c'est de gérer tout ça, de réussir à bien faire que tout marche comme on a envie. C'est pas toujours facile, d'autant que des fois les cartes qu'on a en main ne nous avantagent pas. Alors ça, c'est pas très grave, c'est comme toujours, on dit un jeu de cartes, il suffit d'avoir les mauvaises cartes en main. Ouais, mais si on a vraiment une très mauvaise main, en fait, en début de partie, on a deux jetons qui permettent de défausser la main complètement et de repiocher une nouvelle complète.
D'accord.
Et dans ces cas-là,
c'est pas coincé.
Ouais, par contre, en fin de partie, c'est sûr que si tu as pas dépensé ces jetons, tu marques deux points de plus. Mais faut pas hésiter à les utiliser.
Et à combien tu finis ? À deux joueurs ? Combien de points de victoire ?
On a fait des scores à une centaine de points sans problème.
Oui, donc deux points, c'est rien, quoi.
Ouais, voilà.
Il faut les utiliser.
Il faut les utiliser s'il y a besoin, voilà. Il faut vraiment y aller, il faut pas hésiter. Hein. Il y a des moments clés, il faut les utiliser. Alors ce que j'aime bien, c'est que l'aspect où on peut... Donc il faut gérer cette majorité de fin de partie. C'est pas le... On peut gagner aussi beaucoup de points avec les cartes qu'il y a autour et avec tous les points qu'on va gagner en quoi partie. Mais maîtriser quand même les majorités dans les quartiers sur le plateau, ça amène beaucoup de points. Et donc des fois, en construisant par-dessus une tuile, par exemple, je peux très bien casser un quartier bleu, en mettre sur une tuile qui est centrale à ce quartier, mettre une tuile rouge par-dessus. Ça va me coûter plus cher en ressources parce que je casse les couleurs, etc. Mais si je l'ai bien préparé, ça peut me permettre de faire mal à l'adversaire bien comme il faut.
Ah ouais, c'est hard en fait. C'est un jeu un peu... C'est hardcore.
C'est ouais.
Vu comme tu l'expliques, c'est quand même il y a beaucoup de choses à gérer et
oui, il y a beaucoup de choses à gérer. Un mauvais départ fait mal.
Ouais.
Il faut savoir qu'il y a des parties où effectivement on a mal géré. Si tu gères mal tes ressources, t'as besoin de ressources quand même tout le temps pour construire. T'as aussi besoin de tuiles. Si tu t'as plus assez pioché, si t'as pas à piocher assez de tuiles, tu vas avoir du mal. Donc tous ces aspects-là, ils sont vraiment à essayer de bien de tout mettre ensemble, ce qui est pas facile. Le fait qu'à deux joueurs, l'avantage. Pour parler des avantages du jeu à deux joueurs, c'est qu'il est du coup très contrôlable, très tactique. C'est un affrontement direct, en permanence, sur les majorités, etc. etc. Tu vois, le côté où t'es à plusieurs joueurs, et ben, y en a toujours un qui va venir se mettre là où personne l'attendait, là où...
Mais ça, c'est toujours le problème, le problème entre guillemets du jeu à deux joueurs, c'est que tu vois ce que fait l'autre et tu peux réagir en temps réel, et puis c'est plus dur.
Mais ce qui fait qu'un joueur qui est mal parti aura plus de mal à remonter la pente. C'est là que je vois les défauts des jeux de ce type-là. C'est pour ça, je ne dis pas que c'est inhérent à ce jeu, c'est inhérent à beaucoup de jeux, mais dans celui-là, c'est assez criant. Pour autant, je pense qu'à plusieurs, on a moins de contrôle sur le jeu, et du coup...
Donc trois joueurs. C'est ce type de jeu auquel on joue...
Ouais, c'est qui ouais,
à deux joueurs, quatre joueurs, il y a trop de monde, et, voilà. Et par contre... voilà.
Mais à deux joueurs, c'est quand même très agréable à jouer, hein. Il n'y a pas de problème. La durée d'une partie, c'est très court aussi, puisqu'à son tour de jeu, en fait, on choisit qu'une action parmi les cartes qu'on a en main. Après, on passe à son voisin. Et en sachant qu'en plus, dans les cartes qu'on passe à son voisin, forcément, le voisin, il va en prendre qu'une. Donc après, elles vont revenir à nous à nouveau, à deux joueurs, par exemple. Donc, c'est le côté un peu draft. On peut se dire, ok, je prends cette carte, je pense que les autres là. Ou alors, des fois, on dit, oh là là, si je prends pas cette carte, il va la jouer, il va faire un max de points, ou il va me casser mon quartier. Donc, faut absolument que je la prenne. Il y a ces choix-là à prendre en compte. Donc, au niveau interaction, on est servi. Hein, il y a tout ce qu'il faut. C'est quand même un peu exigeant. Hein, c'est un jeu...
J'ai l'impression, oui.
C'est très simple. Le mécanisme, il est simple. La règle, elle est super simple. Elle tient en 4 pages. Hein, elle est,
Ouais, après, c'est les cartes qui font beaucoup.
C'est bien écrit. Pour une fois, ah oui, j'ai quand même pas dit. Pour une fois, l'iconographie est soignée et bien vue, impeccable. Il y a rien à dire.
Donc ils ont évolué.
Très largement là-dessus. Il y a rien à dire. Donc la règle est simple. Après, effectivement, la maîtrise va demander. Les joueurs vont être un petit peu perdus s'ils sont pas rodés à ce type de jeu. Mais pour moi, enfin, en plus, les parties c'est 3/4 d'heure maximum. Hein,
et il y a une version solitaire.
Je ne joue pas.
Okay, sachez qu'il y a également une version solitaire de ce jeu. Et vous la découvrirez lorsque vous découvrirez ce jeu.
Ouais, mais c'est une version. Enfin bon, c'est un truc genre. Faut battre le score, quoi.
Pour résumer, Ginkopolis, 1 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, oui, puisqu'il y a une version solo. Voilà. 45 minutes. 45 vraiment minutes. 45 minutes. Même, tu crois, à 3 à 4 joueurs ? Ou c'est seulement à 2 ?
En fait, je pense qu'à 2, tu joues en 30 minutes. Et à 5 joueurs, tu peux y jouer. Parce que du fait que c'est un draft, enfin, les joueurs choisissent en simultané des actions. Après, il n'y a plus que l'ordre de résolution. D'accord. Donc ça va très vite, effectivement.
Tu as parlé des cartes personnages ?
Non, bah parce que je rentre pas dans tous les détails quand je présente les jeux. En début de partie, il y a déjà un premier draft avec les cartes personnages. Les personnages, qu'est-ce qu'ils vont donner ? Ils vont définir notamment les ressources avec lesquelles on part, nombre de tuiles, nombre de ressources, et bout de points de victoire. Voilà, on peut déjà partir avec un petit capital. Et des bonus qu'ils nous donneront plus tard dans la partie.
D'accord, oui. Après, on joue la partie sans...
Il faut pas se tromper sur les choix des cartes personnages, ceci dit. J'ai fait une partie où j'ai choisi de prendre plein de ressources en début de partie, mais ensuite derrière j'ai tardé à installer mon économie, j'ai eu du mal. Le début de partie a été difficile, mais il y a plusieurs stratégies gagnantes pour marquer des points de victoire, donc je me suis rattrapé autrement en fait.
D'accord.
J'ai pas visé les majorités, j'ai visé une autre façon de jouer.
Donc Ginkopolis était dans le fair play scout de cette Essen, dans le salon du jeu d'Essen en Allemagne.
C'est mérité parce
que. À raison.
Ouais, parce qu'en fait on retrouve plusieurs concepts qu'on a déjà vus ailleurs. Hein. Il y a rien de novateur. Mais c'est bien mélangé, la règle reste très fluide, les parties sont fluides du coup. Voilà, il y a juste du coup il y a la petite pression, le petit truc justement qui fait que on joue pas n'importe comment, on joue pas en aveugle, faut forcément réfléchir un petit peu à ce qu'on va jouer. Et voilà, c'est ce qui fait que le jeu est plaisant en fait. Un jeu de Xavier Georges pour 1 à 5 joueurs, enfin on va dire 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. 45
minutes. C'est à toi de le dire parce que.
Ouais, 10 ans. Bah oui, difficilement avant. 45 minutes environ et c'est trouvable à peu près à 35 euros, 33,50 par exemple chez Ludic Bazar.
On a passé en revue un tas de bons jeux. Donc Kali pour les plus jeunes, Uchronia et Andorre pour un public familial plus. Et puis Ginkopolis pour les plus core gamers d'entre nous. Bien belle sélection, je dirais.
Ah oui. Oui, ça fait. Il y a un peu pour tout le monde, là.
Donc, n'hésitez pas à venir commenter, soit que vous ayez quelque chose à dire sur Uchronia par rapport à la gloire de Rome, soit que vous ayez à dire quelque chose sur peut-être la difficulté des scénarios d'Andorre ou les possibilités dans Ginkopolis. Nous informer un peu plus sur le Ginkgo Biloba. Oui, parce que ça a vraiment un rapport avec le Ginkgo Biloba.
Oui, sans doute. Je sais plus que ça.
Donc, je vous rappelle l'adresse de notre site, podcast.proxy avec un -jeu avec un x.fr. N'hésitez pas à venir commenter, nous dire si vous aimez les jeux, si vous avez envie d'y jouer, si vous y avez joué, et nous donner les configurations qui vont très bien. Et puis, voilà, n'oubliez pas de nous noter sur iTunes également, un petit commentaire, une petite note sur le iTunes Store. Et puis.
Finissez bien l'année.
Attends, ça sera en ligne quand ça ?
Avant le 31 décembre.
Non.
Ah bon ?
Bonne année ! Bonne année !
Bonne année, commencez bien l'année alors.
Alors si effectivement c'est en ligne après, on vous souhaite une excellente année 2013, on le refera encore la semaine prochaine. Et puis voilà, n'oubliez pas le 14 février. 14 février, c'est la Saint-Valentin.
C'est bien. C'est important le 14 février.
N'oubliez pas le 14 janvier, le live à la triche. Et puis en attendant, je vais bien.